Bonsoir, le Nord qui vous toujours en proie aux affrontements entre le CNDP et les FARDC. Les dernières nouvelles en provenance de Goma parlent d'un calme d'une ville prête à capituler. D'après plusieurs sources, les FARDC auraient quitté la ville, ce que dément le général Mayala Vainqueur, commandant 8e région militaire basée au Nord Kivu. Quel est le point de la situation militaire et humanitaire ce mercredi soir dans la ville de Goma, après la rencontre d'hier à Kinshasa entre le chef de l'État et quelques ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité? La voie diplomatique peut-elle faire taire les armes au Nord Kivu? C'est le thème de cette émission au dialogue entre Congolais. Négociations, poursuite de la guerre ou encore départ de la communauté internationale. Voilà un résumé, vos premières réactions à travers vos messages. Nous en parlons dans cette émission avec nos invités. Il s'agit d'Ernest Kiaviro, il est député national, élu de Beni au Nord Kivu, secrétaire général du RCDKML de Mboussa-Nyamwisi, allié de la majorité présidentielle. Jacques Joly est sénateur et secrétaire national du MLC chargé de la décentralisation et sécurité, surtout sans oublier Bertrand Bissimois. Il est porte-parole du CNDP. Nous aurons aussi Michel Bonardeau, porte-parole sortant de la MONUC parce qu'appelé à mission des Nations Unies au Tchad. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Nord qui vaut toujours en proie aux affrontements entre le CNDP et les FARDC. La ville de Goma est calme, mais un calme d'une ville prête à capituler. Les FARDC, cités par certaines sources comme ayant évacué la ville de Goma, mais le général Mayala Vainqueur, commandant 8e région militaire basée au Nord Kivu, dément. Alors, quelle est la situation militaire et humanitaire actuelle ce mercredi soir dans le chef-lieu du Nord Kivu? Je vous propose cet entretien de Kelly Côté et notre confrère Jules Ngala.
Bonsoir Jules Ngala.
Bonsoir
Kelly. Jules, il y a près d'une heure, on a parlé d'une panique observée depuis cet après-midi au sein de la population de Goma. Comment se présente la situation en ce moment dans la ville?
Oui, c'est toujours la panique qui continue parce que, vous savez, Goma, c'est une ville qui est habituée à se coucher tard, comme on le dit ici. Mais en ce moment, il n'est que 20 heures. Un peu plus de 20 heures et tout le monde est déjà chez soi. Donc, c'est que la panique continue sans parler de la population.
Et qu'est-ce qui a provoqué cette panique, Julingala?
Bon, écoutez, il y a plusieurs facteurs. On peut évoquer, entre autres, le fait que vers le milieu de la journée, les déplacés de Kibumba qui attendaient d'entrer dans la ville au niveau de la de l'entrée nord de la ville de Goma, qu'on appelle la barrière OPLP. Donc ces déplacés ont réussi à forcer la barrière et ils se sont déversés dans la ville. Lorsque la population qui était au centre-ville a vu cette marée humaine des déplacés de Kibumba entrer dans la ville, bon, la population de la ville a cru que, effectivement, la population de donc sont les gens qui fuient les combats, qui s'approcheraient de la ville. Ça, c'est un premier facteur. Un autre facteur, c'est le fait que au presque même moment, on a vu certains militaires de l'armée régulière quitter le front, portant leurs blessés sur les épaules, qui sur une moto, qui sur un vélo. Ben les gens ont cru que les militaires venaient de décrocher. Un autre facteur, c'est lorsque la MONUC a décidé de mettre à l'abri son personnel civil en l'évacuant de la base de l'aéroport situé à l'aéroport pour le mettre à l'abri au niveau de la base située au sud de la ville. Ben les gens ont cru que la MONUC était en train de faire des valises. Voilà. Alors que ce n'était pas ça, quoi. Voilà tout ça a fait que la panique s'est emparée de la population de la ville.
En ce moment, est-ce que vous pouvez nous dire qui contrôle la ville de Goma?
Ben, écoutez, pour l'instant, moi je me trouve au centre de la ville. Nous ne voyons pas les militaires FARDC ici au centre de la ville. Nous ne voyons pas non plus les militaires CNDP. Mais tout à l'heure, là, le général Mayana a fait une déclaration à la radio locale pour appeler la population à rester calme et pour inviter les militaires de l'armée régulière qui seraient livrés à des actes de pillage dans le secteur ouest à revenir à la région et à ne pas continuer à fracasser la population. Le général Mayana a dit que il reste dans la ville, le gouverneur reste dans la ville, et qu'il est resté dans la ville avec la population jusqu'à la fin. Jusque-là, on ne voit pas encore les militaires de FARDC assurer faire les patrouilles comme ils ont l'habitude d'en faire. C'est à peine tout à l'heure là qu'on a aperçu une colonne des militaires du colonel Paddy, de la 82e brigade, qui montait vers l'aéroport. Et on a aperçu aussi un convoi du commandant de la 9e, de la 9e brigade, le colonel Smith, mais ils montaient tous vers l'aéroport. Mais aussi ici au centre-ville, il n'y a pas de militaires congolais, il n'y a pas non plus de militaires du CNDP.
Voilà, c'était là Jules Galormona et Kelly Nkouté. Puisque nous avons Bertrand Abissimoa, porte-parole du CNDP, bonsoir Monsieur Bertrand.
Bonsoir.
Voilà. Qui contrôle Goma ce soir?
Eh bien, il faut dire que le CNDP n'est pas dans la ville de Goma.
Vous êtes
où? Le CNDP est autour de la ville. Le CNDP vient de proclamer un cessez-le-feu. Et parce que le CNDP a estimé qu'il ne fallait pas donner l'occasion aux membres de l'armée et donc des FARDC de pouvoir opérer des exactions vis-à-vis de la population. Et d'ailleurs, ces exactions, malheureusement, ont déjà commencé. Et il s'est fait que le CNDP n'a pas maintenant la responsabilité du contrôle de la ville.
Mais vous dites quelque part dans votre communiqué, parce qu'on l'a lu, que voilà, vous ne voulez pas faire paniquer la population comme vous le faites dans les villes que vous avez déjà libérées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez déjà libéré Goma ou pas?
Nous avons déjà libéré plusieurs villes, notamment Rutshuru, notamment Kiwanja, et Rubare et d'autres villes qui sont, disons, d'autres cités qui sont juste autour de celles que je viens de citer. Et comme vous le savez, nous sommes en train de rassurer la population dans toute ville, que nous voulons que la population revienne, elle est en train de revenir. Et nous aurions souhaité également le faire à Goma, si jamais nous entrions dans la ville de Goma, mais nous avions vu que si nous entrons dans la ville de Goma, présentement, et les FARDC peuvent en profiter pour tuer, pour commettre des exactions sur la population civile. Et c'est que malheureusement nous sommes en train de déplorer maintenant là une armée qui se dit une armée du peuple, une armée nationale qui au lieu de sécuriser leurs propres citoyens, ils se mettent à les piller, ils se mettent à les tuer parce que nous apprenons qu'il y a même des tueries dans la ville.
Qui dit que c'est pas vos éléments aussi qui le font?
Pardon?
Qui dit que ce n'est pas vos éléments, c'est des pays aussi qui font du pillage?
Nous ne sommes pas dans la ville de Goma, vous le savez. Je crois que votre journaliste vient de témoigner. Il vient de voir les officiers FARDC traverser les rues de Goma. Vous avez suivi le message du général Mayala qui appelait la population calme. Et il a certifié qu'il est dans la ville de Goma, il contrôle très bien la ville de Goma, vous avez appris ça. La responsabilité de la ville de Goma incombe présentement et au FARDC et à la MONUC.
Oui, très rapidement, très rapidement s'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas seul invité dans cette émission, il y a des tirs en ce moment, d'après... S'il vous plaît, Bertrand. s'il vous plaît,
oui.
D'après nos auditeurs qui appellent, il y a des tirs en ce moment à Goma. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Malheureusement, nous ne sommes pas dans la ville de Goma pour vous le certifier. Mais ce que nous savons présentement, c'est qu'il y a des pillages organisés par les FRDC qui tirent sur des magasins, qui tirent sur des boutiques des citoyens,
merci,
qui tirent sur des habitations,
oui,
juste pour porter la porte.
Merci
vous
beaucoup,
savez qu'en face de nous, lorsque nous nous battions sur la périphérie de Goma,
oui,
nous avions également en face de nous les FDLR,
oui,
les FDLR employés.
Bertrand, si on va poursuivre, s'il vous plaît.
Les FDLR sont dans la ville de Goma.
S'il vous plaît, Bertrand.
Et oui, sont en train d'aider les FDLR à commettre des massacres.
S'il vous plaît, Bertrand, dites-moi, s'il vous plaît, on va poursuivre cette émission, parce que de toute façon, vous êtes encore là jusqu'à la fin de cette émission. Nous avons aussi Kaviro Ernest, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà, vous aurez tout le temps aussi de parler, ne vous inquiétez pas. Votre première réaction par rapport à cette situation, Goma, que vit la ville de Goma, une situation de panique, une situation, je dirais, confuse.
Non, je voulais d'abord proposer à Bertrand d'ici moi de vouloir un peu préciser dans quel contexte on peut situer son cessez-le-feu. Parce que je sais qu'au moment où nous sommes ici, les collines de Kikuku et de Bitonga dans les Matisi sont violées par l'artillerie du CNDP, ou plutôt l'artillerie rwandaise appuyée par les éléments qui se présentent comme le CNDP. Je voudrais également qu'ils puissent nous dire d'où est venu cet esprit de protéger les gens, eux qui viennent de provoquer la plus grande catastrophe humanitaire de la région des Grands Lacs, et qui ont privé d'eau pendant plusieurs semaines la population des Kiwanza, eux qui n'hésitent pas à récupérer des enfants qui sont dans les écoles et de déplacer les gars qui sont dans les camps, aujourd'hui ils sont en train de se présenter comme des saints. Et je suis un peu estomaqué par la justesse avec laquelle notre ami Bertrand Bissimo décrit l'ambiance de la ville. C'est comme s'il y était. C'est comme s'il y était. Évidemment, nous avons
l'impression qu'il est là.
Yes! Nous avons même des informations de plusieurs sources recoupées qui auraient de fortes infiltrations de militaires rwandais en civil dans la ville de Goma. Mais moi, je vais dire ceci à la population de Goma qui me suit en ce moment et qui nous a élus pour que nous puissions amener une république où on ne cherche pas à utiliser la puissance des feux des voisins et ses prétextes sempiternels comme la présence de FDLR pour venir faire l'une ou l'autre aventure politique en RDC. Moi, je dis ceci, que la population de Goma ne quitte pas la ville de Goma. Que quelqu'un atteigne la croix d'un émoussito qui parle.
Non, c'est en français.
Et puis,
c'est en français.
Non, oui, cette phrase
c'est
était nécessaire. Elle était nécessaire, je l'ai dit, et j'ajoute ceci. Les phares d'essai qui ne se laissent pas entraîner par des infiltrés qui sont en train de tirer maintenant pour paniquer la ville et faciliter l'entrée d'autres personnes. Mmh. Il n'y a pas de FDLR à Goma. Il y a des infiltrés qui sont en train de chercher à soulever dans les quartiers de Katindo, à tirer partout, et quelle part de ces ne se laisse pas amener par ces infiltrés. Ceux qui tirent, ce sont des infiltrés.
Mmh.
Et j'appelle la communauté internationale à être un peu plus objective quand on qualifie les faits. Hier, on a pu voir dans l'école primaire de Biyumba, dans les Nyiragongo, le quartier général avancé de l'armée rwandaise, qui du reste cet après-midi a pilonné les positions de Kikuku et de Kibumba, de Fardese, ce qui a créé le décrochage. Malheureusement, il y a eu ce vent de panique. Et comme nous sommes dans ces studios avec un représentant des porte-parole, que dis-je, de la MONUC, il peut nous dire comment la MONUC, pour se déployer, est allée directement à Gisenyi. Elle a évacué avant que la ville ne tombe. Et là, ce sont là des facteurs qui ont amené une panique dans la ville. Mais il faudrait que la panique reste. Cette terre nous appartient. S'il faudra qu'elle boive notre sang, qu'elle le boive, mais qu'on puisse continuer chaque fois à répondre à des gens qui veulent justement que nous puissions vider cette terre en errant ça et là, comme les déplacés des guerres sur notre propre terre.
Puisque vous semblez être très très bien informé de ce qui se passe à Goma, est-ce qu'à Biron, selon vous, la ville de Goma est tombée entre les mains du CNDP ou pas?
Je suis convaincu qu'il y a une infiltration. Je suis convaincu que les dispositifs de défense de part de ces sont encore là. Mais je ne connais pas exactement, et comme M. Michel Bonanno est ici, et ce que pense la MONUC, c'est de que faire demain. Parce que, en ayant évacué une partie de son matériel et de son personnel, nous ne savons pas exactement, parce qu'ils nous ont promis qu'ils vont protéger les agglomérations. Ils n'ont pas protégé Rutshuru. qui nous ont promis qu'ils vont protéger les agglomérations. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire à défendre Goma? Dans Goma, la question est pourquoi ne condamnent-ils jamais le Rwanda, même quand ils entrent ouvertement comme hier et aujourd'hui?
Bon,
pourquoi donc?
Pour donner l'impression, mais là, disons, pour donner plutôt le temps à Michel Bonardo, qui est dans cette émission. Bonsoir, Michel.
Bonsoir.
Oui. Et qu'est-ce que vous répondez alors à Ernette Cabiro sur toutes ces questions? La MONUC qui ne protège pas les populations au niveau de Rutshuru, la MONUC qui se déploie au niveau de. Qui se replie sur Gisenyi, ça c'est Ernest Cabiro qui le dit.
D'accord. Donc, dans le cas de Rutshuru, et ça pourrait peut-être être confirmé par le porte-parole du CNDP, effectivement, dans la zone de Roubari, on a procédé à du pilonnage des positions du CNDP par nos hélicoptères d'attaque dans le but de protéger une avance sur Rutshuru. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que les FARDC ont décidé de quitter la ville, un tout petit peu en débandade. D'ailleurs, ils ont même tiré sur la MONUC, ce faisant. Bon, on n'en fait pas un plat. Donc, on a effectivement protégé Rutshuru. On a pilonné aussi les positions du CNDP, ça peut être confirmé par votre invité à Kibumba, dans le but de freiner toute avancée sur Goma. Ça, c'est chose, ce sont des choses qui ont fait, ce sont des faits. La population de Goma a vu ces hélicoptères quitter les aéroports. Ils ont même peut-être entendu les roquettes qui ont été lancées. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour ce qui est de la crise sur Gisenyi, c'est pas du tout le cas. En fait, malencontreusement, aujourd'hui, il y avait rotation de certaines troupes du contingent indien, et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils passent par le Rwanda pour des questions logistiques, pour pouvoir quitter le pays, pour prendre des avions commerciaux à partir de l'aéroport de Kigali. Donc ça, c'est, ce sont des choses qui se font de manière tout à fait normale. Il y avait donc rotation de contingent aujourd'hui. Il y a eu aussi, et peut-être ça c'est un peu maladroit de la part de la MONUC, une concentration ou une, si vous voulez, une sortie de son quartier général qui est situé juste en face de l'aéroport de Goma, comme vous connaissez, et vers le camp qui est prévu pour les activités de la DDRRR qui se trouve en fait le long de la corniche. La sécurité de la MONUC a considéré que ce camp était mieux adapté en cas d'attaque militaire sur Goma pour protéger ses civils, donc pour protéger les civils qui travaillent au sein de la MONUC. Et effectivement, quand je dis que c'est un peu maladroit, c'est parce que ça donne l'impression, si vous voulez, à la population que la MONUC est en train de fuir.
Les abandonner.
Ce qui n'est absolument pas le cas.
Mais, en bref, Michel Bonardo, si on vous suit, c'est que si la MONUC a arrêté de pilonner, est-ce que c'est parce que les FARDC, eux, se sont déployés ou ont quitté le front bien avant?
Oui, bien sûr. Donc, la MONUC avait dit qu'elle protège les populations des centres urbains. Elle continue à le faire à Rutshuru. Donc, c'est pas avec les 140 casques bleus qu'on a à Kiwanja qu'on va faire des miracles. Mais nos casques bleus qui sont à Kiwanja, donc c'est tout près de Rutshuru, sont restés sur place et sont toujours là malgré le fait que les FARDC eux-mêmes aient tiré sur nos soldats et même peut-être entre eux selon certains rapports.
Alors, nous avons Jacques Djoli, monsieur le sénateur, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes sénateur du MLC, mais vous êtes surtout chargé de la sécurité au sein de votre parti. Et je ne sais pas, je me permets quand même de dire que vous êtes un ancien militaire, donc vous comprenez très bien tout ce qui se passe. Comment vous expliquez un peu cette situation de Goma, avec tout ce que les uns et les autres ont avancé?
Ben, écoutez, d'abord, je suis très peiné par la situation qui se passe à Goma. Je suis très frappé aussi par la situation de la population qui est en train d'errer sous la pluie, des enfants affamés depuis 3 jours. C'est une situation humanitaire très grave parce qu'on parle de plus de milliers de déplacés. Et pour ça, nous avons une pensée très, très pieuse pour cette paisible et pauvre population qui n'est pas protégée, qui est abandonnée par tous, par sa propre armée et par surtout la communauté internationale. Ceci dit, la situation actuelle de Goma ne nous étonne pas. nous avons dit il y a plus d'une année que l'option militariste n'était pas une option susceptible de créer les conditions de paix et de sécurité pour la population de Goma. Nous avons insisté pour avoir une approche non pas de battant comme certains ont cru pouvoir l'avoir, mais du dialogue. Et ceux qui ont pris l'option militariste ont fait les jeux de ceux qui utilisent essentiellement l'arme chaque jour, et ils ont fait le jeu de nos voisins qui, n'est-ce pas, ne visent que l'instabilité de cette province pour, n'est-ce pas, tirer les dividendes de rente de localisation de la paix.
Donc c'était une erreur de s'avancer dans cette option militaire.
C'était une erreur. Kunda, nous avons toujours dit que Kunda n'était que l'arbre qui cachait la forêt, mais malheureusement, lorsqu'on a signé l'accord de Nairobi, nous avons dit au gouvernement que vous êtes tombé dans le piège du linkage, c'est-à-dire de lier la question de Kunda au FDLR, ce qui est une démarche politique rwandaise. Et comment voulez-vous qu'un ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo signe un papier où on dit que le gouvernement du Congo s'engage à éradiquer les forces négatives génocidaire, littéralement. Ça, c'est un vocabulaire, un discours strictement rwandais qui ne nous regarde pas. Et on s'est engagé, on a pris un certain nombre d'engagements, notamment sur cette question de l'FDLR, et aujourd'hui, vous avez suivi, les uns et les autres se servent, n'est-ce pas, de cet argument de l'FDLR pour, n'est-ce pas, justifier la guerre. Et lorsque la mission du Sénat s'est rendue au Kivu, la population du Kivu a dit que la première préoccupation d'insécurité, c'était l'FDLR. Et là aussi, nous avons dit au gouvernement, il faut éviter toute ambiguïté vis-à-vis de l'FDLR, qui, n'est-ce pas, risque de cautionner le schéma d'alibi de nos voisins. Donc, c'est la somme de toutes ces erreurs, de l'immobilisme du gouvernement ciblant au plan interne sur les secteurs internes et sur cette question militaire. Et à cet effet, nous n'avons toujours, et ça c'est le troisième niveau d'ambiguïté d'erreur, souligné la question de la nécessité d'une réforme sérieuse, rationnelle de l'armée. Là aussi, Ernest est là, nous n'avons jamais vu au niveau du Sénat ou de la Chambre basse une loi de programmation militaire, un schéma clair de mettre en place d'une armée nationale, républicaine et professionnelle. Et quatrièmement, concernant la MONUC a toujours clamé la faiblesse de ses moyens. Nous avons toujours dit l'ambiguïté de la résolution 1376 qui ne dit pas clairement qu'elle doit faire la MONUC. Et on parle de la protection des civils, on parle de la plus par décès, on parle de DDR, on parle
de
forces dans le tampon. Mmh. Tout ça, ce sont des concepts flous. Et sans entrer dans la pensée du général Bitété, son départ dû à ces plans. Et ajouter cela, 17 000 hommes éparpillés sur un territoire comme toute l'Europe occidentale. Donc, c'est cet ensemble de choses. Et aujourd'hui, la rébellion est à la porte de Goma. Et si il n'y a pas la MONUC tout autour, et s'il n'y a pas la honte de la communauté internationale, eh bien, Kunda serait déjà en train de trôner la Goma, ce qui est malheureux et ce qui me fait très mal et fait mal à toute la communauté congolaise.
Merci beaucoup, Jacques Delis. Puisque vous avez parlé des FARDC qui ont abandonné la population, en tout cas, ce n'est pas ce que pense le commandant de la 8e région militaire, vainqueur Mayala. Il dément l'information faisant état de l'abandon de la ville de Goma par l'armée régulière. D'après le général vainqueur Mayala, Goma est sous contrôle des militaires FARDC appuyés par les casques bleus de la MONUC. Par ailleurs, il invite les militaires FARDC à ne pas piller les biens de la population. Vainqueur Mayala s'est confié il y a quelques minutes à Radio Okapi à Goma.
Je voudrais vous rassurer, la ville de Goma est toujours contrôlée par les FARDC avec l'appui de la MONUC. Ce sont des rumeurs qui font qu'aujourd'hui, et à cette heure, et en ce moment, toute la population, si pas les trois quarts, est en train de vider la ville de Goma. Je vous rassure une fois de plus, croyez aux efforts des FARDC et de la MONUC. Pour moi, je suis en train d'adresser ce message, la ville de Goma est sous contrôle des FARDC et appuyée par la monnaie. Je voudrais seulement apaiser les esprits de la population. Pour terminer, je demande particulièrement aux militaires de ne vraiment pas procéder au vol, au pillage de la population. Notre mission est de protéger la population et leurs biens.
Voilà, c'était là le général Mayala. Reste Cabiro, je vais revenir à vous, Bertrand Bissimoua, vous êtes porte-parole du CNDP. D'abord, une question très rapidement à vous, Ernest Cabiro, vous qui êtes député national, membre du RCDKML. Vous pensez que les FARDC tiendront longtemps à Goma?
Les FARDC tiendront à Goma aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et je voulais préciser à l'attention de M. Bonardo que je sais que la MONUC a bel et bien pilonné les positions des dizaines de pays. Le problème, c'est que, je voudrais vraiment que M. Volano nous explique, la MONUC, quel que soit, je l'ai vu, après des nier pratiquement les preuves que le gouvernement congolais présentait sur la présence rwandaise. Et même, allons-nous continuer jusqu'à aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'ils nous disent que même quand on voit les Rwandais entrer, on voit cet après-midi, on va pilonner nos positions à partir du Rwanda.
Vous avez vu.
Écoutez, tout le monde l'a vu.
Tout le monde l'a vu.
Le gouverneur de la province du Nord Kivu l'a dit et répété aujourd'hui que ce sont ces bombardements venant de l'autre côté de la frontière. Mais pourquoi donc est-on aveugle et sourd quand il s'agit du Rwanda? Je voudrais bien le savoir.
Oui, là, je veux juste vous citer, puisque vous parlez du Rwanda, là, c'est juste une dépêche qui nous est parvenue, là, de Reuters, selon Mme Jendai Fraser, qui est sous-secrétaire d'État américain chargée des affaires africaines. Elle a dit ce mercredi aux journalistes que le CNDP s'est servi du territoire rwandais dans les combats contre les FARDC. Et qu'il n'y a pas eu présence, selon elle, des troupes rwandaises dans ce combat.
C'est complètement ridicule, parce qu'on sait que toute l'armée rwandaise, 46e brigade, 48e brigade et 9e brigade sont sur la frontière où il y a même des trous de fusil. Comment peut-on investir ce territoire sans la permission du gouvernement rwandais?
Merci. Alors, Bertrand Bissimoua, finalement, vous combattez seul ou avec les Rwandais dans vos rangs?
Bien, j'espère que d'abord vous allez m'accorder le timing qu'il faut, que vous venez d'accorder.
Vous avez le même temps, ne vous en faites pas.
Je voudrais préciser quelque chose, un certain nombre de choses. La première, c'est d'abord dire à M. Njuri qu'il vient de scandaliser le peuple congolais lorsque il dit que le Congo a mal fait en acceptant que les FDLR sont des génocidaires rwandais. Vous savez que ce sont ces criminels qui sont en train de commettre des exactions sur notre propre population ici à l'Est. Vous savez qu'ils inventent des femmes enceintes, qu'ils extirpent les fœtus, qu'ils exécutent ou qu'ils enterrent les bébés vivants. Et ils commettent toutes sortes d'horreurs sur notre population. Et à entendre que M. Njoli puisse dire que ces gens-là doivent être dédouanés, vraiment c'est très scandalisant pour nous qui vivons à l'est du pays. Je voudrais répondre juste rapidement au député Kaviro. Je n'ai pas loin de moi l'intention de lui apprendre les notions de géographie. Je voudrais lui dire que Bitonga, s'il connaît bien la localité de Bitonga, et se situe un peu plus loin dans les Massissi, la localité n'a aucune frontière avec le Rwanda. Et à la distance où se retrouve Bitonga aujourd'hui, il n'y a aucun mortier du monde qui peut être tiré à partir du Rwanda et atteindre la localité de Bitonga. Donc, c'est mentir au peuple congolais.
Oui, mais Bertrand Bissimoua, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Je veux que vous réagissiez aussi à ce que la sous-secrétaire d'État américaine, Jendai Fraser, a dit. Vous avez utilisé le territoire rwandais, oui ou non?
Je voudrais vous rappeler les victoires que le CNDP a eues dans le temps.
Là, vous ne répondez pas à ma question.
Qui n'avait jamais eu, je termine,
oui.
Des territoires qui n'avaient jamais eu de frontières avec le Rwanda. Je vous rappelle la victoire de Mushaki que tout le monde connaît. Je vous rappelle les nombreuses victoires de Sake. Je vous rappelle les nombreuses victoires de Mueso.
Oui.
Je vous rappelle les nombreuses victoires
de Tongo. Là, c'est du passé. Mais aujourd'hui,
Est-ce que vous avez utilisé le territoire rwandais, oui ou non, comme le dit Mme Jendai Fraser?
Je vous dis que présentement, il y a ceux qui sont en train de chercher de prétextes pour impliquer le Rwanda dans la crise présente parce que tout simplement, ils ont la volonté de faire venir la SADC dans les hostilités. Ce sont des faits qui se vérifient. Nous sommes tous des Congolais, nous sommes le CNDP. Le CNDP, c'est un mouvement congolais qui n'a rien à voir avec le Rwanda. Nous voulons prouver à la face du monde que nous sommes, nous, Congolais, capables de constituer une armée qui peut sécuriser le territoire national.
Oui.
Il y a ceux qui sont en train de vouloir justifier l'idée d'Artemis II, je sais, il y en a, qui veulent cracher sur l'armée congolaise et cracher sur l'État congolais en voulant montrer qu'il n'y a que les étrangers qui peuvent mieux défendre le territoire national.
Oui.
Je vous dis que
nous avons
une armée qui peut défendre le territoire national, qui peut sécuriser les Congolais, qui peut sécuriser les biens des Congolais. Et vous savez aujourd'hui que l'armée que nous avons en face de nous est infiltrée par les FDLR. C'est une armée
Vous l'avez déjà dit, Bertrand.
Qui tue le peuple congolais.
Bertrand, dites-moi.
En avoir honte.
Oui, merci Bertrand. Puisque vous avez évoqué une sorte d'Artemis II, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette émission. Juste, je rappelle à ceux qui viennent de se joindre à nous, le Nord Kivu, toujours en proie aux affrontements entre le CNDP et le FARDC, après la rencontre d'hier à Kinshasa entre le chef de l'État et quelques ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité, la voie diplomatique peut-elle faire taire les armes au Nord Kivu? C'est la seconde et la dernière partie de cette émission. On en parle juste après ce rappel de notre contact.
Dialogue au Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
La voie diplomatique peut-elle faire taire les armes au Nord Kivu? À l'Assemblée nationale aussi, la situation dans l'Est du pays était l'unique point débattu dans la plénière de ce mercredi. Elle a adopté la convocation ce vendredi du nouveau gouvernement en vue de son investiture pour éviter le vide juridique afin que ce gouvernement présente son plan rapide de sortie de crise dans l'Est. L'Assemblée nationale s'est résolue aussi de formuler des recommandations au président de la République, aux Nations Unies, à l'Union Européenne, à l'Union Africaine et à la SADC. Écoutez le président de l'Assemblée nationale qui parle ici de la recommandation à faire aux Nations Unies, Vital Kamerhe, dans ses propos recueillis par Innocent Olinga.
Nous voulons dire au secrétaire général des Nations Unies, quand nous l'avions reçu, nous lui avons dit notre préoccupation par rapport à la situation à l'est de notre pays. Et nous lui avons dit que nous saluons l'action, la mission de la MONUC, mais nous avions dit que son mandat n'était pas suffisant. Et nous avions dit que le Congo, dans sa partie est, a encore une fois besoin d'une force déjà atterrisse. Parce que on ne peut pas comprendre que la communauté internationale dont nous sommes membres par ailleurs ait dépensé autant de moyens. Que l'Union européenne ait dépensé autant d'argent pour soutenir les élections dans notre pays. Que les institutions démocratiquement élues soient effectivement installées ici comme à Goma. Et que par la volonté d'un voisin et des groupes armés, tout ceci puisse être effacé du revers de la mer. Nous disons que ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Le Conseil de sécurité doit condamner clairement en le nommant le Rwanda. Il doit exiger le cessez-le-feu immédiat.
Voilà, Michel Bonardo, parce que vous représentez les Nations Unies, il faut le dire, dans cette émission. Comment vous réagissez à cet appel des députés nationaux?
Écoutez, il n'en revient pas à la MONUC, si vous voulez, de décider quel serait le dispositif à prendre. Mais j'aimerais réagir à certains des propos qui ont été tenus. Donc, il est évident que le nerf de la guerre au Nord Kivu depuis 1994, c'est la présence des FDLR au Congo. C'est extrêmement bien documenté, leur pillage, les viols, les tueries, etc. Tout ça, c'est documenté. La MONUC les rencontre de manière systématique lors de ces patrouilles, soit au Sud Kivu, soit au Nord Kivu. Et pour nous, pour la MONUC, le problème des FDLR doit être traité. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que des attaques du CNDP sur l'armée nationale, qui normalement, ou en tout cas selon les déclarations des uns et des autres, devraient être leur allié face à la menace des FDLR. Alors, est-ce que le moment n'est pas venu de faire une coalition des forces congolaises, donc si le CNDP se dit parfaitement congolais, est-ce qu'il n'est pas venu le moment pour une coalition de toutes ces forces pour régler ce problème des FDLR? Je ne vois pas l'utilité pour le CNDP de taxer tout le monde d'allier des FDLR et de s'en prendre un peu à tout le monde, y compris la communauté internationale. C'est un peu exagéré de penser que l'ONU déploie une force et déploie des moyens conséquents dans ce pays pendant des années et des années pour s'allier avec une force génocidaire. C'est une aberration, c'est pas possible.
Voilà. Qu'est-ce que vous répondez, Bertrand Vissinois? Parce que là, vous donnez l'impression de faire de la lutte contre les FDLR votre propre affaire. Qu'est-ce que vous répondez?
Il faut ne pas être congolais pour continuer à défendre les FDLR qui sont en train de massacrer notre peuple. Et je voudrais quand même dire quelque chose qui apparemment blesse tous les Congolais, c'est que nous avons l'impression que le leadership congolais est en train de transférer tous ses pouvoirs d'alien et la défense par exemple à Artemis et la justice à la CPI, donner peut-être les finances au FMI, et nous ne savons pas encore. Nous, au CNDP, nous disons non, par dignité nationale, et nous pensons que le Congolais est encore capable de se défendre lui-même, le Congolais est encore capable d'instaurer une justice équitable par lui-même, nous pensons que le Congolais est encore capable de se gérer lui-même sans que la main de l'extérieur puisse intervenir.
Bertrand, s'il vous plaît, essayez de m'écouter parce que là, il ne me reste que 8 minutes. Vous avez déjà beaucoup parlé. Là, vous avez répondu par rapport à Vital Kamerhe et les députés. Mais très rapidement, en quelques secondes, pourquoi vous ne vous alliez pas au FARDC pour vous attaquer au FDLR? Très rapidement.
Et nous avions déjà tenté l'expérience, je crois que en 2006, lorsque nous sommes allés au mixage, nous avons tenté l'expérience d'être avec les FARDC, et vous savez comment le mixage a été, qui est l'œuvre du chef de l'État lui-même, et qui finalement, lorsqu'il a trouvé que le mixage portait des fruits, lui-même l'a détruit. Et qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui qu'il y a encore ces gens d'alliance pour le marché?
Oui, merci.
Vous savez que le mixage a abouti à des résultats palpables.
Oui.
Nous sommes parvenus à nettoyer le massif et le retour de toute présence.
On vous a compris.
Ça n'a pas plu à certains
députés,
à certains ministres à Kinshasa.
Oui, Bertrand, vous avez déjà répondu, s'il vous plaît. On vous a suivi, s'il vous plaît. D'abord, avec le professeur Jacques Joly, vous aurez la parole, Ernest Caviro. Vous avez déjà parlé plus que le prof, d'ailleurs. C'est juste par rapport à cette idée, on a dit, souhaitée par les députés nationaux, dont vous, Ernest Caviro, d'une sorte d'Artemis 2, une force multinationale. D'après l'AFP, version anglaise, la France, à travers son ministre des Affaires étrangères, soutient l'option de l'envoi d'une force européenne d'environ 1500 éléments pour stopper la crise à l'Est. Vous êtes d'accord avec ça?
Non, avant d'abord que j'aborde cette question d'Artemis, je voudrais dire à mon frère Bissi, moi, s'il est vraiment mon frère, que si, quoi que tous les Congolais scandalisés par vos propos, le Congo tout entier est plutôt scandalisé par le fait qu'ils servent les cas sexes, n'est-ce pas, au mouvement rwandais. Mais dans tous les cas, je lui ai dit que les FDG dit que les FDLR servent de prétexte et que les FDLR, n'est-ce pas, constitue l'épine dorsale de toute la crise, n'est-ce pas, dans cette région. Donc, mais nous refusons que le gouvernement congolais puisse tomber dans ces discours soi-disant ethno-génocidaires qui est le propre du gouvernement rwandais. Donc, s'il y a des affinités avec le gouvernement rwandais, c'est l'engagement que lui-même. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous estimons que le FDLR constitue à la fois la Libye, mais aussi l'élément réel, n'est-ce pas, de la déstabilisation. On ne peut pas comprendre qu'un État puisse tolérer avoir 4-5 000 hommes, n'est-ce pas, sur son territoire armé. Mais cela permet justement l'existence des FDLR
pour le Rwanda à continuer à se servir de mouvements comme celui qui se développe aujourd'hui. Mais au-delà du CNDP, il y a aussi les Maïmaï et tous ces mouvements.
Oui.
Donc il faut revenir à une armée nationale républicaine.
Par rapport à l'antenne
Artemis, mais ça n'engage que ceux qui ont, n'est-ce pas, avancé cette idée. Mais ce qui nous concerne, l'objectif principal d'un État, c'est de doter d'une armée républicaine national et professionnel. Et cet objectif de réforme, c'est la clé de voûte, n'est-ce pas, de la restauration de l'État congolais.
Mais puisqu'il y a une situation urgente.
Mais compte tenu de la situation urgente, il faut, pour nous, je crois que c'est un point de vue personnel, il faut plutôt aller dans le sens de M. Alain Doss qui a sollicité le renforcement des capacités de la MONUC en hommes et la clarification, n'est-ce pas, de la mission de la MONUC.
Voilà.
Donc, une force internationale européenne, bon, ceux qui ont en train de préparer ce chemin, eh ben, ils savent sont le moyen, mais pour nous, il faut une solution intermédiaire MONUC renforcée en attendant que l'armée puisse reprendre ses moyens.
Voilà. Notre bureau, vous allez répondre, mais j'en profite pour vous donner quand même, vous faire état de ce point de vue ou de ce message de John Kouzo qui nous écrit. Depuis le Mouvement au Katanga, il pense que la RDC ne peut plus envisager un quelconque cessez-le-feu. Elle doit continuer à se battre et faire appel aux alliés s'il le faut, car selon lui, le Rwanda ne cessera jamais de déstabiliser la RDC.
Je suis dans presque la même ligne que lui, mais sauf qu'il faut continuer aussi à dialoguer parce qu'on ne peut pas changer ses voisins. Il faudrait que nos fils et les fils des Rwandais ne puissent pas continuer à se battre sur les gaz au lieu d'en profiter en exploitant mutuellement. C'est-à-dire que je voulais balayer d'un revers de la main la petite leçon de géographie qu'a tant événement de me donner Bertrand de Simon tout à l'heure. Quand j'ai dit qu'à Bitonga, il est en train de violer son propre cessez-le-feu ce soir, et nous sommes dans les Matissi, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on a, j'ai dit qu'on a pilonné à partir de Kibumba, à côté de la frontière. Et il vient donc de confirmer que le cessez-le-feu qu'il a proclamé est en train d'être violé par lui-même et non par les Rwandais. Merci beaucoup. Par rapport à Artemis, moi je pense que Artemis 2, c'est une solution intermédiaire qui a l'avantage de laisser le temps et au FARDC et à la MONUC qui s'est clarifiée, parce que vous l'avez vu, que même le général qui venait à peine d'être désigné et a vu la vue du noir.
Ça, c'est une aubaine pour vous.
Non.
Vous maîtrisez les raisons
pour lesquelles. Justement, nous avons l'impression qu'il n'a pas vu clair dans son travail.
C'est vrai qu'il est pressé.
Je pèse mes mots, je suis responsable. Je ne suis pas comme celui qui est allé faire beaucoup de déclarations officielles sur une histoire qu'il ne maîtrise pas. Encore que, pour moi, la responsabilité de la défense de ce pays doit revenir à nous, les enfants de ce pays.
Oui.
Mais à ce moment-là, pour ce qui est de la question de FLR, nous nous demandons comment. C'est juste quand nous voulons déployer, comme le disait M. Bonadou tout à l'heure, juste quand nous voulons déployer des unités pour en venir à bout, que ceux qui devaient applaudir nous tirent dessus.
On va continuer avec les auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions. 300 plus de réactions, là, mais on n'a plus de temps, c'est juste une minute. Il y a Nyangezi Gaspard qui nous écrit depuis Goma. Lui dit que l'unique moyen pour obtenir le cessez-le-feu, c'est accepter l'offre du CNDP, un dialogue direct avec le gouvernement. En 10 secondes, Ernest Caviro, vous êtes pour ce dialogue?
Vous savez, je ne refuserai jamais les dialogues, dans où que ce soit, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a l'impression que cette demande cache en fait un plan de déstabilisation permanent. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à toute possibilité de dialoguer, mais en respectant ce qui a été fait avant, notamment les communiqués conjoints de Nairobi et les programmes à Mali.
Merci beaucoup. On retourne vers vous, Bertrand Bissimoi, vous, le porte-parole du CNDP. Très rapidement, en quelques secondes, parce que c'est la fin, je reviens encore à ce qu'a dit Jendai Fraser, qui vous demande de ne pas entrer dans la ville de Goma, sinon vous allez être responsable de ce qui va arriver, vous devez retourner au processus politique. Qu'est-ce que vous répondez très rapidement en 15 secondes, s'il vous plaît?
Je pense que d'abord, les FARDC et le gouvernement congolais sont responsables des pillages et des massacres des populations qui sont en train de se passer présentement dans la ville de Goma. Et deuxièmement, je vais vous dire que le CNDP est pour la paix, le CNDP n'a jamais attaqué personne, le CNDP se défend, le CNDP veut sécuriser.
Est-ce que vous êtes prêt pour le dialogue et rentrer dans le processus politique, pardon?
Nous ne faisons que demander ce dialogue tous les jours.
Merci beaucoup.
Le gouvernement ne nous a jamais entendu.
Merci Bertrand. Merci Bertrand. C'est la fin de cette émission. Claude Kierza l'a réalisé. Jean-Noël Mokondo était à la technique. Merci de nous avoir suivis.